Bien, donc le but de cette journée, hein, c'est de réfléchir ensemble aux contributions de nos disciplines différentes ou des différentes disciplines par rapport à l'éducation et au développement durable. Et j'ai pris deux exemples parce que souvent dans les textes officiels, hein, c'est ça qui est recommandé, ou dans le corps des inspecteurs, c'est plutôt ces deux disciplines-là qui portent depuis l'origine. Donc c'est pour des raisons historiques, mais c'est aussi parce qu'elles sont particulièrement concernées par les questions d'éducation, développement durable, et bien sûr les autres aussi. Mais que ça soit les sciences du vivant, et on pourrait parler aussi des sciences de la Terre, mais je ne suis pas du tout géologue, donc je me risquerai pas dans cette aventure-là, ou que ça soit la géographie avec Christine, hein, ce sont vraiment deux disciplines qui sont fortement mises à contribution vis-à-vis du développement et de la durabilité. Alors, le cas des sciences du vivant, je vous rappelle des éléments que nous avons déjà vus lundi dernier. Et donc, j'étais parti de l'idée qu'il y a, suite à la commission Bréjon, la commission interministérielle Bréjon, suite aux deux textes de BO, qui sont des textes d'encadrement qui sont sortis en 2004 et en 2007 vis-à-vis de la généralisation de l'EDD. Il y a deux missions pour l'école qui peuvent être mises en évidence, une mission de participation et une mission de préparation. Donc il faut garder ça présent à l'esprit pour essayer de voir quelle cohérence on peut apporter vis-à-vis de ces deux missions. Ce document-là, on l'avait également commenté lundi, c'est un rappel. Et donc on avait vu que la centration sur les actions éducatives qui sont impliquées par les deux missions précédentes pour l'éducation et le développement durable entrait en tension avec deux autres pôles qui sont celui des investigations multiréférentielles dont on parlera peu pendant ce stage, hein, mais je vous invite à participer dès cette année ou dès l'année prochaine si vous pouvez pas cette année au stage de l'IFRE qui travaille sur ces démarches-là de façon spécifique. Mais une fois qu'on a parler des actions éducatives, une fois qu'on a dit ou mis en place des investigations, il reste que la question des contributions disciplinaires se pose, puisque à la fois pour des raisons académiques et pour des raisons d'organisation, mais pour des raisons scientifiques aussi, les disciplines ont des choses à dire. Mais sous quelle forme ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, sur la relation entre EDD et sciences, on a quelques repères. Là, je vous remets les résultats du rapport PISA, cette enquête internationale, qui n'était pas franchement vis-à-vis du développement durable, mais qui était davantage vis-à-vis de l'environnement, mais qui avait montré et établi quand même que il y a une relation forte entre les performances en sciences, qui sont représentées ça ici, pardon, et les performances ou la sensibilisation aux questions environnementales qui sont représentées ici sur ce graphique. On voit la situation, hein, de la France par rapport aux autres pays. On a une situation qui est moyenne vis-à-vis des sciences et qui est en dessous de la moyenne vis-à-vis de la sensibilisation. J'ai perdu mon index, voilà. Vis-à-vis de la sensibilisation aux questions d'environnement. Donc on se situe quand même dans le paquet de tête, mais en voyant très large. Et donc on a des gros efforts à faire sur ces questions-là, tant sur le plan scientifique que sur le plan d'éducation à l'environnement. Et il faut penser aussi l'éducation au développement durable, avec les différences que cela comporte par rapport à l'éducation à l'environnement. J'ai pas eu le temps d'analyser le nouveau rapport PISA, qui je pense, lui, doit être plus axé là-dessus. Alors on avait dit aussi, ça sont des rappels, hein, que l'école devait se poser la question de sa contribution aux défis du développement durable tels qu'ils sont définis par la stratégie nationale du développement durable. quel repère on a par rapport aux sciences de la vie. Il y a un rapport qui a été publié sous la forme d'un livre de François Gros. Alors François Gros, je ne sais pas si c'est un nom qui vous parle, mais François Gros, c'est un biologiste, un académicien, qui était l'auteur de nombreux rapports au cours de la deuxième moitié du XXe siècle sur les sciences du vivant, donc sur les orientations que devait prendre la recherche en sciences du vivant, donc au niveau académique, mais aussi, en conséquence, sur l'éducation scientifique. Et dans un ouvrage très récent, il montre que l'idée de développement et l'idée de développement durable bouleverse les habitudes des recherches académiques en biologie et les axes sur ces trois grands thèmes-là, qui sont ceux de la santé, ceux de l'agriculture, avec les questions de nutrition, ceux de l'environnement, du côté des énergies et de la biodiversité. Et donc la proposition, c'est d'articuler en fait ces contenus de biologie et de voir comment ils répondent aux défis du développement durable. Les programmes devraient, un jour ou l'autre, c'est pas encore le cas, répondre à ces propositions, François Gros ayant un impact et une influence très forte et incontestable. Alors je vais prendre comme exemple, pour essayer d'analyser ces relations, je vais prendre l'exemple de la biodiversité. A priori, en première approche, on se dit de façon simple que la question de la biodiversité regarde les biologistes. Et donc la biodiversité peut être traitée dans un programme de sciences de la vie et de la Terre sans se questionner plus que ça. Alors dans une première approche, effectivement, si on s'intéresse simplement à l'idée de diversité du vivant, et on peut le faire dès le primaire, dès le plus jeune âge, on peut effectivement partir de constats de ce type. Là, ce sont deux photographies qui sont prises à quelques centaines de mètres, quelques centaines de mètres l'une de l'autre dans ma région, et on voit que selon le traitement, selon la gestion de l'espace, on peut avoir une diversité des espèces extrêmement différente. Ce genre de constat-là peut être fait sur le terrain ou peut être fait par l'intermédiaire de travaux sur des photographies dès le plus jeune âge. Le constat est assez... dans une zone de monoculture ou dans une zone qui est écologiquement gérée, on a des choses tout à fait différentes. Nos talus se sont ont perdu énormément de diversité en espèces. Mais on va voir qu'en fait, l'idée de biodiversité est plus compliquée que celle simplement de diversité des espèces, et que c'est une idée qui balance entre le politique et le scientifique, entre l'idée de patrimoine et une volonté d'agir, et puis surtout entre la volonté de conserver l'existant, donc une approche patrimoniale, et une approche évolutive. Et tous ces points-là sont en tension et créent débats, controverses, et positions extrêmement fortes et tranchées, voire d'hostilité, que normalement l'idée de développement durable devrait amener à dépasser, hein, comme tous les contenus qui rentrent dans le développement durable. Alors quelques éléments sur l'origine de ce terme de biodiversité, un petit peu d'histoire. Alors, je m'excuse auprès de ceux qui connaîtraient déjà, mais c'est aussi pour ceux qui connaîtraient pas. L'idée de biodiversité, hein, en fait, c'est un néologisme qui est apparu sur un coin de table dans un colloque. Enfin, c'était pas vraiment un colloque, c'était plutôt une commission qui avait été organisée, un forum qui avait été organisé aux USA en regroupant des scientifiques, des biologistes, et qui devait produire des recommandations pour le monde politique. On était bien dans un forum, non pas à caractère scientifique, mais à caractère d'expert vis-à-vis du monde politique. Et puis, comme ils en avaient un peu assez de déclamer tout le temps ce qu'est la biodiversité, un des participants, Rosen, a écrit sur un papier comme ça le mot biodiversity, et après ils ont utilisé ce mot comme ça entre eux parce que c'était pratique. C'est devenu un terme qui, donc l'usage s'est répandu au sein de ce forum, et vous voyez que la première écriture, en fait, était celle-là, hein, qui montrait bien que c'était un néologisme. C'était bio et diversity, hein, c'était le groupement des deux. Ensuite, parmi les participants, il y avait Edward Wilson, le biologiste bien connu, qui a publié donc les résultats de ce forum sous cette appellation de biodiversity. Au même moment, venait de naître, l'année précédente, la Société de la biologie de la conservation, qui était une nouvelle association de chercheurs, donc là vraiment à caractère scientifique. Parce que la biologie de la conservation était dans l'impasse la plus totale, ses théories ne fonctionnaient pas. Il raisonnait par rapport à, pour ceux à qui ça parle, hein, la théorie des îlots. Mais en fait, avec cela, il se rendait compte que c'était pas fonctionnel et pertinent du point de vue scientifique. Donc, il y avait vraiment une crise. Et l'idée de biodiversité, avec ce qu'elle a impliqué derrière, a permis de relancer les recherches et de renouveler les recherches et de donner un nouvel essor. Et donc cette société s'en est emparée très rapidement. Et ils en ont fait un levier d'action vis-à-vis du monde politique pour sensibiliser le monde politique. Et surtout, cette association était constituée d'écologues des milieux tropicaux. Et c'est eux qui ont lancé toutes ces alarmes sur la forêt amazonienne, les forêts équatoriales et tropicales, l'intérêt de préserver, etc. Hein, ça vient de ce milieu-là. Mais en même temps, Wilson, après avoir publié ce rapport, c'est un rapport de colloque, hein, finalement, le premier... Il a publié un autre ouvrage en son nom propre qu'il a appelé « La diversité de la vie »,« Diversity of Life », donc la diversité du vivant. Donc il ne reprenait pas encore le terme de biodiversité. Et c'est pour ça que la question de la biodiversité, de la diversité du vivant est entrée, par exemple, dans le sommet onusien de Rio en 92. C'est sous l'influence de ce livre qui a connu un succès extrêmement important et qui a été traduit l'année d'après en français, par exemple, sous le titre de « Diversité du vivant ». Et c'est la conjonction, en fait, entre l'activisme de certains scientifiques et le succès de cet ouvrage et de l'idée de diversité du vivant qu'il fallait absolument prendre en compte au sommet de Rio, qui a fait du terme qui s'est finalement répandu et accepté par tout le monde, mais peut-être trop facilement, qui en a fait un succès à la fois scientifique et à la fois politique et médiatique. Tout le monde maintenant parle de biodiversité. Alors là, je reprends l'exemple sur lequel vous avez polémiqué hier, me semble-t-il. Le cas du Pisly. Et donc ça, c'est un extrait d'un article de journal, hein, le Républicain Lorrain. Et le Républicain Lorrain a titré, il y a quelque temps, qu'il y avait ce cas de l'apparition d'une nouvelle espèce, un croisement entre le grizzly, qui est l'ours brun du continent nord-américain, et puis l'ours blanc, ce fameux ours polaire, qui est le symbole de la victime désignée du réchauffement climatique. Et on a tous vu ces images où le pauvre ours blanc nage désespérément à la recherche d'un glaçon pour pouvoir monter dessus, parce que sinon il peut pas attraper les phoques pour se nourrir, et il meurt de faim. Enfin, on a tous vu ces images-là dans des films très, très médiatisés. Et là... Pour un biologiste, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, c'est qu'on a observé donc des croisements. Et donc, des croisements entre ce grizzly et l'ours blanc, ce qui donne, du point de vue de la nomenclature, un pisly. Et en fait, c'est un ours qui est entre les deux, en enfin, pas vraiment entre les deux, mais il a un certain caractère de l'ours blanc, c'est un caractère du grizzly, et ça donne un ours avec des taches marron sur du blanc. Il nage moins bien que l'ours blanc, mais il nage beaucoup mieux que le grizzly. Et donc, du point de vue biologique, voilà, c'est la première fois que l'on assiste à une adaptation en direct. En fait, d'où son intérêt de prendre cet exemple-là. Il n'y a plus de banquise, eh bien, le pisli sera là, en fait. C'est la réponse biologique à ce qui se passe. Alors, ils se croisent et c'est une vraie hybridation, donc c'est une vraie nouvelle espèce, puisque ils sont féconds, hein, pour ceux qui sont biologistes. C'est le caractère qui spécifie... voilà. Mais quand on regarde le titre du Républicain Lorrain, et c'est un exemple simplement, on voit que, attention, gare au mélange. C'est une menace pour l'espèce de la banquise. Il n'est pas certain que l'ours polaire soit menacé. Il n'y a pas que le Républicain Lorrain. Si vous allez voir sur Internet, vous trouverez des pages entières sur ce cas-là. Et l'association Ushuaïa en a fait aussi tout un exposé sur cette question-là. Donc là, on voit les deux d'origine. Alors, et eux aussi titrent. Hein, tous les textes qui sont là sur les deux diapos, j'ai pris directement sur les sites. Pour illustrer, donc ce sont les phrases qui sont les expressions et les questions qui sont posées. Donc Ushuaïa se veut un peu plus scientifique que Républicain Lorrain, et donc ils expliquent ce qui se passe, l'idée d'hybridation entre espèces, et voilà, et il dénonce le fait que à ce moment-là, s'il y a hybridation, les deux espèces vont probablement s'éteindre. Et en fait, il s'inspire d'un texte qui a été publié dans la revue Nature, qui est la revue de référence des sciences du vivant et au niveau mondial. Mais en fait, vous voyez que c'était un commentaire et pas un article scientifique. Et donc la question, première question qu'on peut se poser sur cet exemple-là, c'est est-ce qu'on est face à un choix scientifique ou est-ce qu'on est face à un choix idéologique? Qu'est-ce que l'on doit faire? C'est la question qu'on vous a posée hier, peut-être, je ne sais pas ce que vous avez répondu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut protéger les deux espèces d'origine? D'ailleurs, est-ce que le grizzly est menacé? Non. Est-ce que l'ours polaire est menacé? Pas franchement. Dans certaines zones, oui, mais pas partout. Dans d'autres zones, il y en a trop. Bon, mais c'est un exemple médiatique. Ou est-ce qu'on doit éliminer le pisli parce qu'il menace les deux autres? Ou est-ce qu'on doit sauver et protéger le nouveau? Qu'est-ce qu'on fait? Et la biologie de la conservation se trouve en permanence confrontée à cela. On peut pas sauver toutes les espèces ou protéger toutes les espèces. Faut-il interrompre le processus évolutif? Ou faut-il l'accompagner? Faut-il raisonner de façon simplement patrimoniale, en se disant que ce qui est bien, c'est ce qui existe? Et est-ce que ce n'est pas au nom de la pureté de la race qu'il faudrait sauvegarder ces deux espèces d'origine? Et vous voyez les dérives idéologiques qu'il y a derrière. Mais la question se pose. Et on voit bien que la réponse ne peut pas être scientifique. Parce qu'on doit faire des choix. Et donc, si on décide de protéger, c'est quelle espèce et pourquoi? Je vais prendre un deuxième exemple. L'exemple du moustique, alors beaucoup moins sympathique que l'ours. Il y a eu une étude extrêmement intéressante qui a été réalisée sur la façon dont le moustique est géré en Camargue, dans la vallée du Rhône en particulier. Mais là, je vais rester simplement sur la Camargue. Vous savez que la Camargue, il y en a deux. Il y a la petite Camargue autour d'Aigues-Mortes, etc. Et la petite Camargue, en fait, a une production industrielle, de riz, etc. Donc, ils sont vraiment engagés dans une agriculture de type industriel. Et la petite Camargue n'a rien à voir avec la grande Camargue, même quand on s'y promène. Et la grande Camargue, c'est toutes les images de la Camargue que l'on a... les gardiens avec leurs chevaux blancs, leurs taureaux noirs, et qui se font une fierté de pas avoir une relation industrielle à leur milieu. Et donc, au contraire, ils essayent de protéger leur milieu. Bon, il s'est posé, il y a déjà quelques dizaines d'années, la question de la gestion du moustique pour pouvoir valoriser du point de vue touristique ces régions. Et on a eu deux solutions de gestion tout à fait différentes. En Petite Camargue, c'était par épandage d'insecticides. Ça n'a posé aucun problème aux populations. Et puis en Grande Camargue, par contre, interdiction de traiter les zones. Pourquoi ? Alors, parce que, en fait, les sociologues, il y a eu des travaux de biologistes et de sociologues qui ont montré que, eh bien, en fait, le moustique fait partie de l'identité du territoire, territorial, du Camarguais, qui pense que le moustique est la barrière contre les Parisiens touristes avec leur peau sensible. Et c'est ça qui évite, en fait, l'invasion touristique de la Grande Camargue. Et en même temps, le Camarguais, lui, ne craint pas le moustique. Et c'est fondamentalement comme cela qu'il pense. On arrive à leur faire exprimer ça. Mais ceci dit, ces dernières années, et ça c'est l'influence des idées de développement durable, de biodiversité, etc., la situation est en train de changer parce que, en même temps, en Petite Camargue, les gens commencent à se dire « mais finalement, le moustique... » Alors, le moustique, c'est un méchant, il est vecteur de maladies, il pique, c'est désagréable, il empêche les gens de venir, il nous empêche de dormir. Donc ça, c'est le mauvais côté du moustique. Mais en même temps, le moustique fait partie de la biodiversité, c'est un maillon de l'écosystème qui est indispensable au bon fonctionnement de l'écosystème. Et donc les gens se retrouvent dans une situation schizophrène vis-à-vis du moustique. Il faut d'un côté le protéger et en même temps l'éliminer. Et face à cette situation schizophrène, il a fallu trouver d'autres moyens et apprendre à gérer autrement le moustique. Et actuellement, on ne le gère plus par insecticide, mais par des contrôles grâce à une bactérie que l'on répand et qui, en fait, permet de limiter sans éliminer les populations de moustiques. Et les gens de Grande Camargue commencent à se dire aussi que c'est peut-être pas une mauvaise solution. Enfin, on voit en tout cas des évolutions sur la façon de gérer les choses et sur la façon dont c'est ressenti. Et en fait, ces deux scientifiques, il y en a un qui est biologiste et l'autre qui est sociologue, ont montré de façon très claire que on ne pouvait pas gérer la biodiversité ou piloter la biodiversité sans tenir compte des dynamiques qui ne sont pas que scientifiques, mais qui sont bien culturelles, politiques, juridiques, économiques, sanitaires et biologiques. Et qu'on est obligé de passer par l'ensemble de ces dimensions pour pouvoir décider de quelque chose. La première idée qu'on peut en retirer, c'est l'idée d'incomplétude du seul domaine scientifique. Les sciences, à elles seules, ne peuvent pas nous dire des choses particulièrement pertinentes sur qu'est-ce qu'il faut protéger, comment doit-on gérer, que faut-il éliminer. Et pourtant, le langage médiatique et scientifique est envahi de termes du type les espèces invasives, les espèces qui nous menacent, nos espèces locales sont menacées, et nos espèces locales sont menacées par l'arrivée d'espèces étrangères qui ne sont pas les espèces autochtones. Et tout ça se retrouve dans un mélange d'idéologie, de science, qui est vraiment à penser et à démêler du point de vue de l'éducation. Alors, première synthèse sur la biodiversité, et après je vais prendre un deuxième exemple. Alors ce schéma-là, probablement que vous l'avez déjà tous vu, ce terme de biodiversité, en fait, il recouvre l'ensemble de ces termes-là et l'ensemble de ces interactions. Donc c'est à la fois la diversité génétique, la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes, la diversité des biomes. Ce qui intéresse les scientifiques, c'est de comprendre ces flèches-là, c'est-à-dire l'interaction qu'il y a entre ces différents niveaux. Et le tout hein, répond à une échelle de complexité qu'on retrouve aussi, par exemple, en géographie, hein, d'un autre point de vue, hein, l'idée d'échelle de complexité. Et la biologie est obligée de se penser dans ces termes-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dedans ? Il y a à comprendre comment, du point de vue scientifique, hein, comment les mécanismes génétiques, c'est la diversité génétique, permettent de produire la diversité. On a ici, avec la diversité génétique, le mécanisme de production de diversité. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est ça qu'étudient les scientifiques, cette flèche-là. Une fois qu'elle est produite, il faut aussi qu'elle se réalise. Elle est produite au niveau génétique, mais il faut qu'elle puisse se réaliser. Et pour qu'elle puisse se réaliser, il faut qu'il y ait des reproductions, des échanges, qu'il y ait circulation des gènes dans les populations. Et ce qu'on constate actuellement, ce n'est pas qu'il y a un arrêt de la production génétique de la diversité, mais c'est qu'il y a des mauvaises conditions de la réalisation de cette diversité, parce que les populations se trouvent isolées, parce que les écosystèmes se trouvent morcelés. En particulier, hein, là je parle pour l'Europe et la France. C'est le grand problème de la France du point de vue de la biodiversité, ce sont les morcellements des écosystèmes. Et donc, les conditions de la production de la diversité, qui est le mécanisme de base de l'adaptation, ne peut pas se faire. Or, le changement climatique que les biologistes ne nient pas, eux, est assimilé à une remontée globale du climat sur environ 200 km du sud vers le nord. Tout se passe comme si, en moyenne, le Sud avait gagné 200 km. Ce qu'on constate du point de vue biologique, c'est que les espèces s'adaptent, elles migrent, il y a des changements importants actuellement, mais globalement, elles ont réussi à gagner une centaine de kilomètres vers le nord. Donc en fait, il y a un déficit d'une centaine de kilomètres. Et ce qui inquiète les scientifiques, ce ne sont pas les changements, ce n'est pas qu'il y ait des pertes dans la diversité, c'est la vitesse de l'érosion de la diversité. C'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire, la vie continue d'ailleurs, la vie elle a été presque rayée plusieurs fois de la carte de la planète sans que... Et voilà, les survivants permettent, et nous sommes les descendants des survivants plusieurs fois, hein, nous, on est des descendants de survivants. Donc c'est pas le problème de la diversité en soi ou de l'adaptation en soi, c'est le problème de la vitesse, c'est-à-dire de l'érosion de la biodiversité. Et la question que les scientifiques se posent, c'est est-ce que les mécanismes de changement climatique ne vont pas trop vite par rapport aux mécanismes d'adaptation biologique ? Au niveau des espèces, il faut raisonner en termes de vulnérabilité. Et dans les médias, vous ne voyez que, j'entendais encore aux actualités ce matin, voilà, les espèces menacées. Hein, tout le temps, on entend ça dans les médias, les espèces menacées. Le lion est menacé, l'éléphant est menacé. Là, ce matin, c'était le lion est menacé. Oui, mais du point de vue scientifique, ça veut strictement rien dire. Il faut définir des niveaux de vulnérabilité. Et les niveaux de vulnérabilité, ce sont des approches probabilistes qui sont exprimés en durée et en nombre de générations. C'est pas du tout la même chose, et ce sera pas du tout le même type d'action qu'on peut mettre en place si une espèce est dans un grand niveau de vulnérabilité, c'est-à-dire risque de disparaître en une génération, ou si c'est en plusieurs dizaines de générations, et donc sur une échelle de temps qui est éventuellement de l'ordre du siècle, voire plus. Les conditions ne sont pas du tout les mêmes et les actions, les mesures à prendre ne sont pas du tout les mêmes. Donc il y a un certain nombre d'espèces qui sont effectivement très menacées. Mais il faut regarder à chaque fois le niveau de vulnérabilité. Vous retrouvez ça sur la liste rouge hein, qui est publiée tous les ans sur ces menaces vis-à-vis des espèces. Mais là encore, il faut se méfier de discours trop alarmistes. Et on voit bien que le vivant, de toute façon, évolue et il y a adaptation par sélection, c'est-à-dire par disparition de certaines et d'autres qui remplacent, et voire hybridation. Un autre niveau sur lequel les scientifiques travaillent, ce sont les interrelations et interdépendances qui existent dans les écosystèmes. Il semblerait, mais on n'en a pas la preuve, qu'un écosystème plus diversifié est plus stable. Mais ça, c'est affirmé sans preuve à l'heure actuelle. pour illustrer, on vous dit que la forêt amazonienne est très fragile, alors qu'elle a une diversité énorme. Et puis, et donc, on vous dit que l'appauvrissement de la diversité est un danger pour un écosystème. Puis en même temps, on va vous dire, et dans les programmes on voit ça, hein, on prend l'exemple des pinsons Darwin sur les îles Galapagos, et on voit qu'à partir d'un petit pinson ou deux, trois petits pinsons qui sont arrivés sur les îles Galapagos, on s'est retrouvé avec plusieurs espèces qui ont envahi l'ensemble des milieux. Donc quelques individus ont permis de repeupler l'ensemble, de peupler, parce que non, parce que c'était des îles nouvelles, par volcanisme, donc de peupler l'ensemble des îles Galapagos. Et vous avez ça dans les mêmes ouvrages, par exemple, les manuels de Terminal, hein, sur les idées de diversité et d'évolution. Donc c'est en contradiction le plus total. Alors, quelle action on peut mener du point de vue éducatif ? L'important, c'est de comprendre et d'agir. Une fois qu'on a compris, on peut agir, et réciproquement. C'est dans l'action qu'on va essayer de comprendre. Alors, ça peut passer par la création de jardins partagés, à caractère patrimonial ou pas, hein, dès le plus jeune âge, ça peut se faire. On peut s'intéresser à la diversité, pas simplement d'ailleurs des espèces sauvages, on peut s'intéresser aussi à la diversité des espèces domestiques, et à la variété des espèces domestiques, aux variétés horticoles et agricoles. Dans ma région, on est passé de quelques centaines de variétés de pommes en début du XXe siècle, à aujourd'hui à peine une petite dizaine qu'on peut trouver dans les supermarchés. Pourtant, les pommiers existent toujours. On peut chercher à les conserver dans des jardins patrimoniaux. La grande idée qui se développe au niveau national, c'est la réalisation de trames vertes, urbaines ou non, et aussi de trames bleues, au niveau océanique, parce que la question principale, ce sont les échanges de gènes entre les populations. On peut participer donc à la réalisation de ces trames vertes qui vont faire l'objet d'un programme national. On peut participer à des grands programmes de recensement floristique et faunistique. Pourquoi ? Parce que les scientifiques du muséum ne sont pas assez nombreux pour faire ce travail-là. Et tout ce travail d'inventaire, finalement, de recensement, a toujours été réalisé à partir du 19e, grâce à des amateurs éclairés. Donc la mobilisation d'amateurs, par l'intermédiaire des sociétés savantes qu'il y avait autour des muséums, autour des muséums d'histoire naturelle, hein, qui se sont développés dans les différentes régions de France. On peut retrouver cela. On a besoin de retrouver ça. Et vous avez beaucoup de classes ou d'écoles de différents niveaux. Hein. Quand je dis école, c'est au sens large, qui participent à ces programmes. Alors, il y en a sur les chauves-souris, il y en a sur les papillons, il y en a, etc., sur différentes espèces. Et on a besoin de gens qui sont à la fois acteurs et formés. Et donc, il faut les former. Et là, du point de vue scientifique, on retrouve un intérêt. Hein. Et puis, il va y avoir la création, et c'est en train de se réaliser, parce que c'est en train d'être généralisé, des observatoires nationaux et régionaux de la biodiversité. Et on parle aussi de l'organisation d'une structure du type GIEC pour la biodiversité au niveau mondial. Et là, on peut retrouver l'élève comme amateur éclairé. Alors, pour illustrer cela, juste un exemple. Au niveau du temps, ça va. Juste un exemple, ce genre de courbe de graphique, hein, que vous retrouvez partout. Je ne sais pas si vous le voyez bien, si à peu près, ça va. Ce sont des études qui ont été réalisées par un programme national qui a étudié l'abondance des populations d'oiseaux communs. Alors pourquoi s'intéresser aux oiseaux communs et pas aux espèces rares ? Bien, parce que on s'est aperçu biologiquement que les espèces rares, alors il y a deux situations, soit elle est vraiment rare, et puis en fait, entre nous, vous ne le répéterez pas, même si c'est enregistré, une espèce très rare, si elle disparaît, c'est pas non plus un drame planétaire. Vous ne répéterez pas ça. Parce que on n'a pas le droit de dire, ça fait partie des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Mais les biologistes le disent, hein, entre eux. D'un autre côté, vous avez des espèces rares, donc qui sont génétiquement pauvres, ou de toute façon quasiment on peut rien pour elles, même si on fait beaucoup d'efforts. On a une petite violette à Rouen, par exemple, la violette de Rouen, qui est mondialement connue. On fait des efforts incroyables pour essayer de la sauver. Bon, mais si la petite violette de Rouen disparaît, le monde ne va pas s'en trouver bouleversé pour autant. Mais la moitié de la ville est protégée pour la petite violette. C'est... Je dénigre pas, hein. C'est... Voilà, c'est une question éthique. Mais par contre, vous avez des espèces rares qui, elles, sont très diverses au niveau génétique. Et là, il faut absolument les protéger parce que c'est la source pour l'avenir. C'est-à-dire c'est la capacité de la planète, du côté vivant, à évoluer. Et donc si on regarde ça d'un point de vue évolutif, celle-là, à ce moment-là, il faut la sauver. Si elle n'a aucune potentialité génétique, bon, on peut décider de la sauver pour des raisons esthétiques, mais pas pour des raisons scientifiques. Vous voyez la différence ? Bon. Alors, donc là, on s'est intéressé aux oiseaux communs. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils deviennent indicateurs, et la biodiversité globalement est un indicateur de l'état de la planète. Si les scientifiques biologistes sont inquiets, c'est à cause de l'érosion qui est trop accélérée de la biodiversité. Et il est plus que probable que cette érosion accélérée, elle est due à l'action humaine et donc à l'activité de développement qui a été et des choix de développement qui ont été entrepris. Et donc regarder ce qui se passe globalement ou sur des indices locaux comme les oiseaux communs donne des indications extrêmement intéressantes et nous montre si notre mode de développement est correct ou pas à un niveau local, c'est-à-dire par exemple au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, etc. On n'est pas obligé de s'intéresser qu'aux espèces extrêmement rares. Et là, quand on regarde l'indice d'abondance des oiseaux communs, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que c'est un peu en chute libre, même si ça a tendance à se stabiliser depuis 2-3 ans, enfin depuis quelques années, ça va un petit peu mieux. En tout cas, il y a une érosion assez forte. Les gens n'ont pas conscience parce que, en fait, il y a un changement dans les types d'oiseaux. Il y a toujours autant d'oiseaux, mais ce ne sont plus les mêmes. Et les zones dans lesquelles on trouve le plus de diversité d'espèces, toujours dans les oiseaux communs, ce sont dans les grandes villes. Et l'Observatoire de la région parisienne l'a bien montré, que c'est à Paris qu'on a le plus de diversité d'oiseaux actuellement, des oiseaux communs. Et par contre, il y a aussi des phénomènes d'invasion. Depuis quelques années, on observe, je ne sais pas si vous avez vu ça, dans les grandes capitales européennes, des vols d'un oiseau très très beau, parce que c'est une perruche qui nous vient de l'Himalaya et qui est en train de remplacer nos pigeons. Mais c'est beaucoup plus joli qu'un pigeon. Entre nous, ça ne faut pas le dire non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les élimine ou qu'est-ce qu'on fait ? Voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Deuxième idée, il y a quelque chose qui est extrêmement répandu actuellement, donc c'est l'usage des indicateurs qui font partie de l'outil pour mesurer les effets de nos modes de développement, avec donc tout simplement mesurer nos actions et nos décisions. Et en particulier, il y a un indicateur qui est un indice agrégé, qui s'appelle l'empreinte écologique, Ecological Footprint, en anglais, EF, parce que c'est d'origine, canadienne, mais du côté anglais du Canada. Et cette empreinte écologique, l'idée d'empreinte écologique, a été fortement médiatisée par le WWF. Tout le monde en a entendu parler. Vous savez, c'est la fameuse histoire où on calcule combien de planètes il nous faut. Si tout le monde vit comme nous. En fait, l'idée, c'est de traduire des flux en surface. Alors, surface pour produire, pour assumer nos besoins, et aussi surface pour recycler nos déchets. Et c'est en travaillant sur cette idée-là qu'un économiste et un écologiste, qu'en fait un ancien ingénieur, écologue, ont construit l'idée de empreinte écologique. Et on voit l'usage se répandre. Voilà, par exemple, c'est un site qui s'appelle Planète en jeu, qui est destiné au monde scolaire, qui est soutenu par la Ligue de l'enseignement, qui est soutenu par le WWF, et qui fait de la promotion pour cet indice. C'est un indice qui est intéressant. En fait, cet indice, il appartient à un certain courant économique dont on a déjà parlé et sur lequel je vais revenir. Alors, quand il y a un indicateur, il faut regarder comment c'est construit. Derrière, à la base, il y a deux concepts principaux. Ces deux concepts, c'est celui biologique de capacité de charge des écosystèmes et avec l'idée de population limite. En fait, qui renverse le problème parce que scientifiquement, au départ, c'est quelle est la population limite que peut supporter un écosystème. Et on l'a un peu transformé dans l'autre sens, puisque là, on se pose la question de savoir quelle est la limite que peut supporter la biosphère mondiale. Donc on renverse la question. Et l'autre pilier, c'est un concept économique, l'idée de rareté d'une ressource. Alors là, on voit déjà qu'il y a deux choses. Il y a un aspect économique et il y a un aspect scientifique. Alors on va regarder rapidement les deux concepts. Donc d'abord le scientifique. Alors l'idée de capacité de charge, c'est quelque chose qui est très ancien en biologie. Si vous n'êtes pas biologiste, vous écoutez simplement, vous ne doutez pas, c'est pas important, c'est les conclusions qui vont être importantes. Bon, il faut savoir que ça vient de cette loi, la loi logistique, qui a été élaborée par un mathématicien, donc c'est vieux, 1838, première moitié du 19e siècle. Et l'intérêt, c'est que on est passé progressivement, mais il a fallu le temps de l'admettre, de l'idée que les populations, en particulier la population humaine, subissaient une croissance exponentielle, donc augmentation permanente. Et cette loi logistique concernant les populations animales présente la forme d'un S, ce qui fait qu'il y a en fait un palier. Et les travaux de Verhulst, et qui ont été repris un peu plus tard au début du XXe siècle, en travaillant sur les drosophiles. Et donc les drosophiles, c'est les petites mouches de vinaigre que tout le monde a déjà vues une fois dans sa cuisine, qui tournent autour des fruits. C'est la mouche du fruit. C'est une toute petite mouche. Et l'intérêt de ces petites mouches, c'est qu'on peut les étudier dans des cages et donc avoir des grands nombres et donc faire des études statistiques sur la diffusion des gènes, etc. C'est grâce à ces cages à drosophiles qu'on a pu prouver scientifiquement, ce qui est bon à rappeler de temps en temps, l'idée de sélection naturelle qui est toujours contestée alors qu'elle était établie scientifiquement sur les cages à drosophiles. Bon, alors, tout ça donc est une vieille histoire, mais ça vous rappelle peut-être ça? L'idée de Malthus, cette fameuse idée selon laquelle il y a un problème entre nos ressources qui croissent de façon géométrique et les populations qui croissent de façon exponentielle. En fait, vous voyez que depuis, 1927, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais dès le départ, cette idée-là a été extrêmement débattue. Pourquoi ? Eh bien parce que notre brave Verhulst, il voulait absolument montrer que la démographie était une question de biologiste. Et donc ça regardait, l'espèce humaine répondait à une loi biologique comme les autres. Et donc il y a eu de très nombreuses polémiques, en particulier avec les démographes qui, à l'époque, étaient pas aussi différenciés que maintenant et qui, progressivement, surtout à partir de cette date-là, c'est le premier congrès mondial de la population, vont se distinguer des biologistes. Et donc, le concept de population limite était extrêmement débattu. Débattu du point de vue des démographes, parce que derrière, il y a le darwinisme qui est remis en question, surtout le darwinisme social. Il y avait l'eugénisme, il y avait l'idée de contrôle démographique, avec des débats extrêmement tendus, qui flirtaient, on est dans les années 30, avec tout ce qui a pu se passer après, dans les années 40, qui ont été mises en application et qu'on durait très longtemps. L'eugénisme, ça durait jusque dans les années 50-60, dans les pays nordiques et aux USA. Donc des débats qui ont lieu dès ces années-là. Ensuite, du point de vue biologique, là aussi, il y a débat du point de vue scientifique, biologique, parce que les populations de taille limitée dans un milieu clos, c'est pas la même chose qu'une population humaine de taille importante et dans lesquelles il y a des échanges, ce qui n'est pas le cas dans une cage fut-elle à drosophile. Et donc, il y a des débats scientifiques sur cette extrapolation-là. Et Verhulst disait que, en fait, son modèle lui permettait de prédire la taille de la population humaine limite. Il était arrivé pour l'an 2000, d'après ses travaux, à 1 milliard d'habitants. Donc on est en 2011 à plus de 6 milliards d'habitants. Il s'est passé quelque chose entre deux. Qu'est-ce qui n'était pas pris en compte? Eh bien, ce qui n'était pas pris en compte, c'est un peu comme dans les travaux de Malthus, c'est l'idée de progrès scientifique, technique sur et la créativité humaine en fait qui permet de dépasser, repousser les limites biologiques de notre espèce. Voilà, en tout cas, tous ces débats ont permis de démétaphoriser la biologie progressivement et l'idée de sélection naturelle, d'évolution est devenue une idée scientifique et non plus simplement une métaphore comme ce l'était au temps de Darwin. Et puis, ces dernières années, il y a des modèles de dynamique de population nouveaux qui sont apparus. On va regarder ça rapidement. Tous les raisonnements sur l'idée de population limite raisonnaient à partir de cas simples, hein, comme je vous ai montré le premier graphique, sur les cages à drosophiles, et puis, dans la situation naturelle, sur des graphiques de ce type-là. Donc ça date du début du XXe siècle, c'était montré, c'est l'exemple du lynx au Canada. Il y a une relation entre les proies et les prédateurs. Voilà, le nombre de proies augmente, puis tout d'un coup ça va se stabiliser, il y a une limite qui est atteinte, et c'est en relation avec le nombre de prédateurs, qui lui-même a une limite, et puis il y a comme ça interdépendance entre proies et prédateurs, et les choses se succèdent dans le temps, de façon régulière et apparemment harmonieuse. Donc la croissance exponentielle n'existe pas parce qu'elle est limitée ici par des interactions, des interdépendances. On a raisonné comme ça pendant très longtemps et c'est ça qu'il y a derrière, hein, l'idée de population limite. Et puis, lorsqu'on regarde ces interactions de façon plus sophistiquée, on regarde là, ça, c'est la quantité d'individus, donc on retrouve cela. Mais si on regarde, si on projette le nombre d'individus de l'un et de l'autre, donc l'interdépendance, on voit que se produit un graphique de ce type-là, ce qui illustre le fait qu'il nous semble qu'il y a une certaine harmonie entre les deux. Et cette idée d'harmonie est en fait complètement illusoire et idéologique. Parce que ce que les travaux les plus récents ont montré, c'est que en situation réelle, on peut avoir effectivement pendant un certain temps des situations stables qui nous donnent l'impression d'être harmonieuses, mais en fait, il y a souvent échappement vers un autre état de stabilité. C'est ce qu'on appelle un système dynamique, un système chaotique. C'est l'idée mathématique de chaos. Donc il faut se méfier parce qu'on n'a pas la compréhension immédiate avec le terme courant de chaos. Et ça, c'est un problème dans les sciences actuelles, c'est que les scientifiques utilisent des termes qui viennent du langage courant, alors que derrière eux ne mettent pas la même chose. Quand on dit espèce invasive dans un média ou qu'on dit espèce invasive dans un congrès scientifique, les gens ne mettent pas la même chose derrière. Mais c'est vrai aussi pour le Big Bang et c'est vrai pour le chaos aussi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme idée du point de vue biologique? C'est que lorsque les décideurs, les politiques, demandent aux scientifiques de dire quels sont les seuils, quelles sont les limites des changements, des implications de notre mode de développement. Nagoya s'est porté là-dessus. Est-ce que les scientifiques peuvent nous dire quelles sont les limites du réchauffement qui seraient acceptables par le monde vivant? La seule réponse scientifique correcte, c'est dire non, les seuils, on peut les voir après coup. Mais comme on est face à des systèmes chaotiques, chaotique, ça veut dire que c'est imprévisible. Et donc, ça peut basculer du jour au lendemain, quasiment. Et dans l'histoire, on l'a montré, ça peut, au cours de quelques mois, on peut avoir des changements climatiques extrêmement violents, brutaux, qui transforment toutes les populations biologiques d'un seul coup. C'est maintenant bien décrit. Mais on peut le dire après coup, on ne peut pas le dire avant. Les seuils sont inconnus. Alors tous ces débats sur faut-il rester dans une fourchette de 2 degrés, 3 degrés ou 5 degrés, c'est pas grave, en moyenne pour les changements climatiques planétaires, etc. Du point de vue scientifique, on peut strictement rien dire. Deuxième pilier de l'idée d'empreinte écologique, donc c'est l'idée de rareté des ressources. Ça, on l'a évoqué aussi un peu lundi, c'est que l'idée de rareté, qui là encore hein, nous semble évidente dans notre langage commun, courant et dans notre vie de tous les jours, eh bien l'idée de rareté, elle est extrêmement compliquée, voire même impossible à définir, d'abord d'un point de vue biologique et également d'un point de vue économique. Parce que tout dépend de l'approche que vous allez développer. Et selon l'approche que vous développez, on n'a pas du tout la même chose. En tout cas, l'idée de rareté d'une ressource n'est pas un donné en soi. Actuellement, on est plutôt sur l'idée que toute idée de rareté ou de ressource est simplement un construit social et politique à un moment donné. Et non pas un donné en soi. On voit bien, par exemple, les débats très forts qui ont lieu actuellement dans le milieu de la pêche entre les scientifiques de l'IFREMER qui disent voilà quel est l'état des stocks des poissons, pour ceux qui sont connus, hein, et les pêcheurs, les marins pêcheurs qui disent mais non, nous c'est pas du tout la pression que l'on en a, c'est pas du tout ce que l'on vit. Et il y a controverse, affrontement extrêmement fort. En fait, est-ce qu'on connaît réellement l'état des stocks dans le milieu marin ? On en a une idée probabiliste, et on a des modèles probabilistes, mais il n'y a personne qui compte. Donc c'est sur des modèles qui se font par capture et recapture, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça de près, mais ce sont des modèles mathématiques extrêmement complexes, compliqués et complexes, et il faut regarder la valeur de prédiction d'un modèle. Comme le modèle de Verhulst s'est avéré faux. C'est-à-dire un modèle, il faut regarder quelles sont ses limites de validité et regarder quelle est la réalité. Et c'est bien souvent dans l'écart qu'il y a entre la prévision du modèle et ce qui se passe en réalité qu'il y a conceptualisation scientifique. Par exemple, l'idée de sélection naturelle a été établie scientifiquement parce que il ne se passait pas dans les cages à drosophiles ce que le modèle de distribution des gènes prévoyait. Et c'est bien parce qu'il se passe autre chose que, en fait, les gènes voyagent beaucoup plus vite que ce qui est prévu, ou leur dispersion ne répond pas à des lois mathématiques simples comme on le pensait. C'est pas des problèmes de fréquence. Et c'est le fait que le modèle ne décrit pas complètement la réalité, même s'il permet de l'interroger, qu'on peut, dans cet écart-là, créer du neuf, qui est l'idée de conceptualiser dans le domaine scientifique. Parce que, entre parenthèses, souvent les économistes ont oublié dans leur pratique de la modélisation, parce que trop d'économistes pensent que leurs modèles sont la réalité. Les biologistes savent depuis donc le XXe siècle, le début du XXe siècle, que c'est faux. Et c'est souvent dans l'écart qu'il y a entre les deux qu'il y a des choses à comprendre. Donc l'idée qu'il faut en tirer, c'est que la rareté, c'est un processus social et politique, et ce n'est pas un donné en soi qui serait quelque chose d'objectivable. C'est pour votre collègue que je dis tout ça, hein, parce qu'il nous avait posé la question de l'objectivation. Au point de départ. Hein. Et vous voyez que l'objectivation, il y a plein d'éléments d'objectivation, mais on ne peut pas objectiver globalement l'ensemble de l'idée de développement durable. Et donc, finalement, pour terminer sur l'empreinte écologique, ce qu'il faut garder comme idée, et c'est pareil avec l'idée de biodiversité, c'est que de plus en plus, il faut intégrer les sciences de l'univers, ce qu'on appelait avant les sciences dures, avec les sciences humaines et sociales, et qu'on ne peut pas penser le monde si on ne met pas les deux en même temps à contribution. Et donc finalement, la nature des savoirs impliqués dans l'idée de développement durable qui est en train de changer toute notre façon de penser ce qu'était un savoir, et un savoir disciplinaire en particulier. Alors, tous les savoirs impliqués dans le développement durable. Là, j'ai pris l'exemple de la biodiversité. On pourrait parler du bilan carbone, de l'équivalent carbone, de l'idée d'efficacité énergétique, de l'idée d'énergie renouvelable, de l'idée de changement climatique, de l'idée de ressources, de l'idée de vulnérabilité, etc. Tous ces savoirs-là, parce que ce sont des savoirs, et on peut les apprendre, et c'est compliqué. Et c'est plus compliqué que ce qu'on trouve dans les programmes actuels, qu'il faudrait aussi maîtriser. Ils sont en fait, Jolivet les qualifie d'hybrides. Ils sont hybrides, pourquoi ? Parce que ils sont en même temps concept et en même temps action. Ça sert à rien de conceptualiser la vulnérabilité d'une espèce si en même temps vous proposez pas une action directement. Dans l'idée de vulnérabilité, il y a ça. Hein. Il y a l'idée, voilà, que dans le temps il va se produire cela et donc il faut agir de telle ou telle façon. Donc ils sont concept et action. Ils n'appartiennent pas à un champ, un domaine bien structuré comme les savoirs plus anciens. Mais on oublie souvent, par exemple, que l'écologie et l'économie étaient communes au départ, se sont après distinguées, comme la démographie et la biologie étaient communes, se sont distinguées. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, ces distinctions, on a besoin de les recroiser à nouveau. Parce que la séparation a été trop artificielle et trop enfermée sur elle-même. Et donc toutes ces questions-là sont à l'intersection des sciences de l'univers, des sciences sociales et des sciences humaines. Et s'ils comportent des enjeux scientifiques, techniques, ils comportent aussi des enjeux politiques. L'idée de, on ne peut pas penser la biologie de la conservation sans la biologie, mais on ne peut pas penser la biologie de la conservation sans la politique. C'est la question du choix. Et donc, ils sont chargés d'idéologie. Mais contrairement aux concepts scientifiques habituels dans lesquels on cherche à dénicher l'idéologie pour finalement l'évacuer, là, c'est inhérent à ce savoir lui-même, l'idée de biodiversité est idéologique. Et on ne pourra pas réduire cela, c'est constitutif, comme tout ce qui est lié au développement durable. C'est à la fois scientifique et politique. Et de façon irréductible, en tout cas, pour le temps qui vient, en tout cas. Par contre, tous ces concepts-là ont une fonction qui est une fonction mobilisatrice. On voit bien que l'idée de biodiversité, on a beau la prendre par tous les bouts, elle a au moins l'avantage de mobiliser l'ensemble du monde scientifique et politique, et même à un niveau mondial. Et donc ce sont des concepts à valeur mobilisatrice. Alors pour une discipline scolaire comme la biologie, quelles sont les préconisations que je peux apporter? D'abord, c'est d'éduquer à la modélisation et à un bon usage de la modélisation. Et on en souffre hein, de ne pas comprendre ce qu'est modélisation. On souffre dans les deux sens. Il y a ceux qui ont une vision positiviste des modèles, c'est la plupart des économistes actuels, où vous avez des scientifiques retraités qui parlent hors de leur domaine et qui viennent dire à la télévision que le climat, les climatologues, ils feraient mieux de rester chez eux puisqu'ils ne parlent que de modèles. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne faut pas prendre les modèles au pied de la lettre. Il ne faut pas dire que les modèles ne servent à rien, parce que c'est eux qui nous permettent de comprendre le monde. Mais il faut souvent regarder quelles sont leurs fonctions. Un modèle, ça peut décrire, ça peut expliquer, mais surtout, ça peut révéler les vraies questions scientifiques, quand je dis scientifique, excusez-moi, l'impérialisme des sciences ex-dures, quand on dit science, en fait, on dit toujours les sciences de l'univers, voilà. voyez ce que je veux dire, parce que les sciences économiques sont scientifiques, la géographie est scientifique, les sciences humaines, ça existe, etc. Il faut pas, je le nie pas hein, quand je dis ça, mais c'est par habitude mauvaise de l'esprit. Et les modèles permettent de prédire. Et puis il y a un nouveau type de modèle qui se développe de plus en plus. Ce sont les modèles d'accompagnement des décisions, et on en a besoin parce que on peut pas décider sans regarder un peu quelles sont les implications, quelles sont les valeurs mobilisées, etc. Donc il y a toute une nouvelle série de travaux qui se développent sur les modèles d'accompagnement des décisions et qu'on aurait intérêt à faire entrer à l'école. Une petite remarque sur l'idée de prédiction. Un modèle prédit, mais du point de vue du développement durable, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement les prédictions, c'est davantage la prospective qui nous intéresse. C'est-à-dire, et il y a un écart hein, entre... c'est pas la même chose, prédire et... Voilà, c'est la panne au bout de 5 jours, c'est la panne. Entre ces deux types d'approches, hein, la prospection et la prédiction, hein, ce n'est pas la même chose. Le modèle permet de prédire parce qu'en fait on extrapole, tandis que la prospective, il s'agit d'envisager l'ensemble des scénarios possibles et puis de voir sur quoi on peut jouer, pour sur quel levier on peut agir pour plutôt orienté dans ce sens-là, ou pas. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ce qui est important pour les sciences biologiques à l'école, c'est éviter le piège du morcellement, reconnaître que les sciences biologiques ne peuvent pas traiter à elles seules aucun des problèmes que pose le développement durable, mais par contre, qu'elles peuvent y contribuer. Donc le piège de la naturalisation, ça veut dire le piège de l'incorporation d'une idée qui ne lui appartient pas dans une discipline. Et toutes les disciplines ont tendance à faire ça. Et le découpage actuel dans les programmes du développement durable, le saucissonnage actuel du développement durable dans les programmes des disciplines est un processus de naturalisation qui conduit à la destruction de toute idée de développement durable. Les recommandations, mes recommandations, c'est qu'il faut penser en termes de contribution et non pas en termes de saucissonnage. Donc des disciplines à l'EDD. Et pour cela, il faut accepter l'incomplétude intrinsèque et non dépassable de chacune d'entre elles. Chacune d'entre elles répond à une partie de la question avec ses méthodes et sa puissance hein, de questionnement, mais de façon définitivement incomplète, parce que on est bien dans un processus complexe au sens scientifique du terme, donc irréductible à l'une de ses parties. C'est ça que ça veut dire hein, quand on dit complexe. Ça ne veut pas dire compliqué, ça veut dire irréductible à l'une des parties. Et donc si vous n'êtes pas dans une situation d'éducation complexe, si vous réduisez à l'une des parties, que ce soit économique, sociale, environnementale, ou encore pire, biologie, géographie, sciences économiques, etc., vous passez à côté de la question que pose le développement durable. Donc évitez la naturalisation des questions de société. Il faut les garder telles qu'elles sont. C'est des questions vives et chaudes. Ne pas verser dans un effet vitrine, c'est-à-dire le développement durable, c'est pas l'occasion de présenter ma panoplie de concepts ou de méthodes pour une discipline donnée. Ça doit être une idée structurante et non pas une occasion de donner du sens ou de montrer des savoir-faire. Et puis reconnaître qu'il y a entre les disciplines, il y a des conflits de rationalité potentiellement. C'est ce que l'on entend, par exemple, sur ce qui se passe au niveau du climat, c'est ça. Hein, c'est que vous avez des travaux hein, qui le montrent. Vous avez des approches différentes parce que vous avez des disciplines différentes qui sont mobilisées. Et vous avez des modèles différents. Donc les géographes ne sont pas d'accord avec les physiciens, qui ne sont pas d'accord avec les climatologues. Et puis vous avez un certain nombre de gens qui sont ni géographes, ni climatologues, ni physiciens, ni qui appartiennent pas non plus à la géologie, par exemple, aux géosciences, qui se permettent de dire que ces sciences-là sont nulles et non avenues. Méditer là-dessus. Et en tout cas, comme recommandation principale, c'est au lieu de saucissonner et de servir du développement durable comme d'une vitrine, il faut aller chercher dans chacune des disciplines ce qu'elle peut apporter à cette idée-là pour la comprendre réellement. Et donc ça nous oblige à chercher quel est le cœur de chacune de nos disciplines et de laisser de côté ce qui est l'accessoire. Ou alors il faut vraiment penser en termes de complémentarité. Et je pense que Christine va nous parler de ça tout de suite.